construit par l'architecte italien Renzo Piano. Et cet immeuble a fait l'objet d'un concours et il s'appelle le Stream Building. On notera le nom français de l'architecte qui s'appelle Philippe Chiamberetta. Ben, lui n'est pas italien, il est français, mais il est d'italien d'origine. Alors, cet immeuble fait l'objet d'un article dans Le Figaro, dans une chronique intéressante par un chroniqueur qui s'appelle Charles Jégu, et dans lequel il y a un dialogue et un commentaire par rapport à ce bâtiment. Alors ça m'a paru tout à fait intéressant parce que l'article parle de la ville de demain et cet immeuble voudrait signifier, voudrait illustrer ce que va être la ville de demain. Alors, pour ceux qui m'écoutent, vous connaissez mes réticences, même si, justement, ironiquement, l'émission s'appelle « Vivrons-nous demain » par rapport aux visions du futur. Alors évidemment, il s'agit de construire, quand on construit pour le futur, mais pour un futur immédiat, et pas forcément pour une société utopique qui va être totalement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Alors, effectivement, là, on tombe dans les poncifs de la ville verte, la ville sans voiture, la ville dans laquelle il y a une mixité, un travail connecté, on change les habitudes. Mais, ma foi, c'est assez intéressant de regarder, d'écouter et de voir comment ce genre de choses peut être amené dans une réalisation d'aujourd'hui. Alors, l'immeuble en question, c'est un immeuble important qui, comme je vous disais, issu d'un concours et qui fait 300 mètres de long. 300 mètres de long, c'est important. Alors, il faut se rappeler aussi que dans une histoire assez récente, on avait interdit les très longs immeubles qui étaient associés dans l'esprit des populations aux grands ensembles, les grands ensembles étant associés également à des problèmes de ségrégation sociale. Et aujourd'hui, on appelle cela d'un euphémisme les quartiers. Alors, sans que l'on ait fait de véritable analyse sur cet urbanisme criminogène, c'est l'expression qui avait été employée par Michel Rocard, entre autres, mais qui est reprise d'une manière, on peut dire, régulière, même si l'architecture de la plupart de ces quartiers a été, on peut dire, amélioré, modifié, et un grand nombre de ces grandes barres appelées justement criminogènes, affublées de ce nom criminogène, ont été détruites dans les dernières, depuis, on peut dire, depuis une trentaine d'années, par la politique de la ville. Bon. Alors, tout ça planté, on est en train de faire donc un immeuble de 300 mètres, mais celui-là, effectivement, il n'est pas criminogène, il a au contraire toutes les vertus. Alors, d'abord, il est construit en bois, ou du moins, il y a une façade à bois. Et l'architecte, qui veut montrer, effectivement, son parti pris écologique, parce que, comme vous le savez, le bois est écologique, il le montre et il regrette, dans l'interview, il regrette que l'intérieur ne soit pas en bois, parce que les pompiers, ils n'ont pas voulu avoir du bois dedans, de bois dehors, parce que le bois, ça flambe, contrairement à ce que certains pensent. Et donc, il n'y a pas de bois à l'intérieur. Alors, je ouvre une parenthèse par rapport à cela, mais l'architecture moderne, qui effectivement a été et une architecture de béton. Alors, comme vous le savez, le béton est un mot maudit, l'architecture de béton, elle pouvait aussi avoir et très souvent utiliser le bois à l'intérieur, dans les revêtements. Je ne parle pas du mobilier, mais on avait des plafonds, on avait des revêtements muraux, on avait les sols. Le bois, dans toutes ses qualités de chaleur, mais surtout en étant protégé des intempéries, était un matériau privilégié pour l'intérieur Et disons que dans l'extérieur, on avait des matériaux beaucoup plus, on peut dire, solides, qui ne brûlaient pas et aussi qui ne changeaient pas avec les intempéries. Alors là, évidemment, pour être dans la ville de demain, eh bien, on a inversé ce processus. Bon, je ferme la parenthèse par rapport à cela. Mais l'intérêt aussi de ce qui est dit par l'architecte sur ce bâtiment, c'est dans ses usages. Alors, ce bâtiment, il est un bâtiment de mixité. Alors, entendons-nous bien par du mot mixité, parce qu'il y a à la fois la mixité sociale, tout le monde comprend de quoi il s'agit, on mélange les riches et les pauvres, les classes moyennes, peut-être pas les riches, en tout cas les classes moyennes et les classes inférieures, ou comme on dit en anglais, lower middle class, c'est-à-dire le bas de la classe médiane, mais par rapport à cela, il y a également la mixité qui est la mixité des usages. Alors on peut avoir les deux, mais dans le cas présent, on ne parle pas de mixité sociale parce que c'est un peu compliqué vu les prix des loyers à Paris, mais on parle de mixité sociale. Et ça, c'est présenté comme une très grande innovation. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit de faire dans ce bâtiment des logements, bien entendu, mais on va faire des immeubles de bureaux, on va faire des restaurants, on va faire toutes sortes d'activités comme des activités touristiques. Il y aura des salles de gym, il y aura des hôtels aussi. Donc, dans cette grande, alors je n'ose employer le mot bar, mais dans ce grand immeuble de 300 mètres carrés, de 300 mètres linéaires, 300 mètres linéaires, c'est trois fois le Capitole, c'est la rue Alsace. Bon, vous voyez, c'est quand même quelque chose de conséquent. Et donc, on va avoir la ville de demain dans laquelle on n'aurait pas besoin de sortir puisque on va trouver tout cela à portée. Alors, avec même à l'intérieur de cet immeuble, si on est connecté, on peut rester chez soi, ne pas aller dans son bureau. Et en fait, on a quelque chose qui est, entre guillemets, totalement innovant. Alors, soyons clairs. L'innovation, elle est quand même tout à fait relative, parce que ce concept, tout d'abord, dans le mouvement moderne, a été grandement développé. Le Corbusier, par exemple, qui est, on peut dire, le théoricien, qui est un des théoriciens, mais en tout cas le théoricien le plus connu, qui a mis en parole et en écrit ce qui se faisait. Donc, là, je fais une petite parenthèse, quand on attribue évidemment à Le Corbusier tous les problèmes de la ville moderne, il est, disons, une figure charismatique, une figure qui porte la parole, mais en fin de compte, il fait ce qui se fait dans cette époque, et on peut dire, je pense, sans tricher, que s'il n'avait pas été là, ça se serait passé pareil, parce que c'est des mouvements de grande amplitude dans un Occident, et puis qui ont débordé sur le monde entier, et qui est la nouvelle manière de vivre qui arrive au XXe siècle. Alors, je ferme la parenthèse sur Le Corbusier, si ce n'est pour dire qu'il avait théorisé cela. Alors, donc, si, pour reprendre l'exemple de Marseille, où les unités, ça s'appelait de nom assez incompréhensible, unités d'habitation conforme, que l'on appelle aujourd'hui ville radieuse à tort, parce que la ville radieuse, c'était autre chose dans la théorie de Le Corbusier, mais il y avait inclus donc une maternelle sur le toit, une rue commerçante qui faisait que les gens n'avaient pas à se déplacer, puis tout un ensemble de services. Alors, si on remonte un peu plus loin, on a aussi l'idée du phalanstère, le phalanstère de Guise, des phalanstères qui étaient dans une époque, on peut dire, d'une vision sociale où on avait des entrepreneurs, des capitalistes sociaux qui voulaient loger les ouvriers, et les ouvriers évidemment, près de le lieu de travail, et on leur donnait aussi un ensemble de services, de lieux de récréation, des lieux de culture. En fait, voilà, c'était une sorte de petite cité refermée. Et il est tout à fait étonnant que l'on présente comme une innovation ce qui est, on peut dire, depuis la fin du 19e siècle et des changements sociaux de l'époque Napoléon III, on peut dire, et qui a parcouru le 20e siècle et qui aujourd'hui résurgit comme quelque chose de totalement original. Mais il est intéressant quand même de rappeler l'histoire, surtout l'histoire récente. Bon, on va marquer une pause musicale et puis je vais reprendre sur ce sujet qui me semble intéressant de la mixité dans la ville.
J'en aurais passé des jours à te faire des chansons d'amour au piano. Toutes mes dames, au style tout mon game. Jour après jour après jour, je ne sais que parler d'amour. Toujours le même poème pour te déclarer mon flamme. Tu fais briller ma flamme, tout mon cœur pyromane. Tu fais brûler ma flamme, l'étincelle de tous mes draps. T'as rallumé la flamme, et comme jamais je crame. Oui, comme jamais je m'enflamme.
Côté architecture, le propos de cet immeuble qui s'appelle le Stream Building, c'est le nom de l'agence Stream de l'architecte Kier Barita dont je parlais. C'est peut-être assez immodeste d'appeler un immeuble que l'on construit du nom d'une agence, bon, mais peu importe, ça fait chic, c'est anglophone. Alors, pour revenir à cet immeuble, il s'agit d'une architecture, on peut dire, modulaire répétitive. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la même, ce qu'on appelle une trame, c'est-à-dire constituée de poteaux et de fenêtres répétées, et c'est répété tout le long de l'immeuble. Alors ça, c'est présenté comme étant le dernier chic. Alors bien sûr, je reviens à mon histoire des grandes barres, c'est bien ce qui était reproché. On disait, ah, il y a une architecture répétitive, monotone, et de ce fait, c'est criminogène. On avait un ministre de l'Intérieur récent qui a dit, ah, quand j'ai vu la longueur de la barre, j'ai compris pourquoi il y avait de la délinquance dans le quartier. Évidemment, il n'y a aucun lien entre l'un et l'autre. Alors, Donc cet immeuble est un immeuble avec une trame répétitive sur 300 mètres linéaires. Ce qui veut dire qu'en fait, à l'intérieur de la même façade, on a à la fois les bureaux, à la fois les logements, à la fois les hôtels et d'autres activités. Ça ne se distingue pas de l'extérieur. Alors, vous me direz, est-ce une grande innovation? Mais non, pas vraiment, parce que la ville ancienne, à laquelle effectivement on ne fait pas le reproche de monotonie, parce qu'il y a peut-être, il y a même pas peut-être, certainement une architecture avec un peu plus de complexité. Prenons par exemple l'exemple de la rue de Rivoli, qui est effectivement encore plus long que 300 mètres, c'est, je crois, trois fois plus même, et, ou quatre fois plus. On a le même motif répété, ça veut dire que on a une arcade en bas et on a les étages avec un étage en retrait, les balcons qui se raccordent et qui filent, et on a le même motif répété tout le long de la rue. Bon, alors c'était les architectes Percier et Fontaine qui étaient les architectes préférés de Napoléon Ier, parce qu'il ne s'agit pas d'un immeuble haussmannien, mais d'une construction qui a été faite sous Napoléon Ier, face au Louvre. Donc on a à l'intérieur donc de ces immeubles, on a des commerces en bas et on a aussi des professions libérales, des bureaux, des logements, et il y a donc, on peut dire, la mixité, si ce n'est sociale, en tout cas la mixité fonctionnelle. Alors sociale, elle l'était souvent parce que il y avait les domestiques qui habitaient dans l'étage supérieur, mais on peut dire que c'était une mixité forcée. Et d'ailleurs, je pense que une grande partie des opérations HLM qui sont construites à Paris, quand on sait le prix aujourd'hui du mètre carré qui atteint des plafonds astronomiques de 10 000, 15 000 euros le mètre carré, bien sûr, ces logements qui sont artificiellement occupés par des personnes modestes, ben ces personnes modestes bien souvent fournissent ce qui manque beaucoup aux gens qui peuvent s'acheter des immeubles à ce prix, c'est-à-dire des aides domestiques, et c'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, on peut dire que la société revit les cycles, mais évidemment tout ça est appelé d'une manière différente, et évidemment on n'a pas le cynisme des bourgeois du 19e siècle, mais c'est la même chose, mais habillé différemment. Alors, donc, on a les activités qui sont sous une même façade uniforme. Alors, on peut dire que si on regarde Toulouse les boulevards, on a les façades de briques qui étaient des répétitions de modules fabriqués par la famille Virevan, et on a, on peut dire, des immeubles avec un peu de variation, mais assez conformes les uns avec les autres, et une architecture régulière en proportion, un étagement, et avec les mêmes emplois de détails architecturaux. Et effectivement, derrière aussi, on peut avoir des variations. Alors, il y a des villes qui sont, par exemple, une ville comme Turin aussi, c'est des villes avec des arcades, comme à la place du Capitole, et simplement, c'est multiplié, et on a une ville uniforme au niveau architecture. Et évidemment, il y a des éléments qui sortent de cela, et qui sont les bâtiments publics, ou les bâtiments, on peut dire, extraordinaires. par exemple, évidemment, les églises, ça ne fait pour l'ombre de toute autre personne, mais on avait aussi des bâtiments qui vont être la Bourse du Travail, le Palais de Justice, des éléments qui vont avoir une architecture particulière qui va permettre à la ville de se lire. On peut dire c'était quelque part la ville romaine, puisque la ville romaine était basée sur un principe d'une urbanisation régulière sur une trame, sur une grille, sur une trame orthogonale, et avec une architecture de même matériau, dans ce cas-là c'était la pierre, et pour la pérennité, c'est-à-dire des bâtiments, la ville n'allait pas changer, et les bâtiments publics, alors là qui étaient évidemment pas les mêmes, mais il y avait des thermes, il y avait les lieux du culte aussi, les lieux du pouvoir, en fait étaient visibles par rapport à ce support neutre. Alors, l'architecture moderne se trouve en fait devant ce choix, celui dont je vous parle, c'est-à-dire de faire une façade neutre et des activités diverses, mais il y a aussi l'exact contraire qui fait que chaque activité va avoir une architecture différente. Donc, par exemple, dans le cas de New York, on a des immeubles qui ne se touchent pas vraiment, mais qui ont des hauteurs différentes, des architectures totalement différentes, mais sur une grille régulière, et ça crée un effet assez surprenant d'alignement, mais on a une grande variété dans les architectures. Alors aujourd'hui, il est vrai que les concours ont fait en France, mais même s'il n'y a pas de concours, c'est un peu ce qui s'est passé un peu partout, c'est-à-dire qu'on a des bâtiments individualistes. Les opérations de logement ne cherchent pas justement cette monotonie qui avait été reprochée aux architectures d'après-guerre, et cherchent à avoir une architecture, au contraire, qui va être individualisée. Alors, ça va être des architectures d'architectes, des architectures d'auteurs, et la variété va être importante dans la ville. Alors évidemment, il y a l'inconvénient à cela. C'est que trop de variété tue la variété, puisque en fait, il va être difficile de distinguer dans ce lot d'architecture, d'architectes très diversifiés, ce qui va être un coup un bâtiment public, ce qui va être un bâtiment, par exemple, on parlait de bâtiments assez sévères comme le palais de justice. Bon, avant il y avait les prisons, et aujourd'hui on aura par exemple des commissariats, mais comment distinguer un commissariat d'une crèche-garderie d'un bâtiment culturel? Tout cela fait que on a du mal à identifier aujourd'hui les bâtiments, dont cette diversité qui aurait pu être, on peut dire, signifiante, qui aurait permis justement de situer les bâtiments, se trouve tuée justement par ces diversités. Alors évidemment, c'est opposé de cet immeuble de 300 mètres dans lequel il y a des activités mais que l'on ne distingue pas, on est dans la position inverse. Alors, je ne vais pas vous dire quel est le mieux, je pense que si ce n'est que oui, c'est un entre-deux. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait, comme en musique, qu'il y ait un chœur et puis qu'il y ait des solistes que l'on puisse avoir des partitions jouées ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait que le logement puisse être la base commune et que l'on puisse se distinguer par rapport à cela. Mais il y a aussi, alors là c'est assez marginal, il y a aussi l'architecture parlante. Alors ça c'est assez, on peut dire, un phénomène assez récent. Récent, on peut dire pas vraiment, parce que l'idée même, on peut la trouver dans les architectures utopiques des architectes de la Révolution française, dans cette période de transition, où on a eu cette architecture parlante, puisque ont quitté le symbolisme religieux ou le symbolisme de la royauté pour créer des nouveaux symboles. Alors là, on a effectivement des exemples qui sont souvent pas réalisés, mais l'architecte, par exemple, qui s'appelle Le Queux, et qui fait une étable en forme de vache et avec des colonnes qui sont des pistes de vache. Et on a des exemples comme cela d'architecture parlante. Et notre époque, il faut dire, par l'architecture de loisirs, l'architecture, on peut dire aussi des parcs d'animation, on est tombé aussi dans cela. Rappelez-vous que la Grande Bibliothèque de Paris, ce qui avait, je pense, emporté la décision du président de la République Mitterrand à cette époque-là, c'est que l'architecte, très malin, avait dit il s'agit de quatre livres posés sur une table. Et effectivement, il y avait quatre bâtiments qui étaient en angle. Or, évidemment, quand on le voit, ça n'a pas l'air du tout de livre, mais l'idée avait plu. Bon, personnellement, je pense que c'est cette architecture parlante qui raconte son histoire est tombée dans le ridicule, et on a des exemples de restaurants à Las Vegas en forme de guitare qui s'appelle Elvis Presley, ou dans le Tennessee, bon, que sais-je. Mais je veux dire, on est dans le jeu, on est dans la parodie, et à Los Angeles, la ville du cinéma, vous avez pas mal d'immeubles, l'opticien avec son magasin en forme de jumelles ou de lunettes, enfin voilà, il y a pas mal de cela, et l'architecte Venturi avait appelé cela l'architecture canard, parce que à Los Angeles, il y a on vend des cuisses de canard ou du canard préparé dans une sorte de restaurant qui est en forme de canard blanc, qui est en bord de route, et donc il faisait la distinction entre le hangar décoré dans lequel il y a un bâtiment neutre, il y a juste une pancarte qui annonce ce qu'il est sur le fronton, et le bâtiment en forme de ce qu'il vend ou ce qu'il prétend être. Voilà, donc c'était une digression par rapport à la ville de demain, et ben, voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine, et on reprendra la semaine prochaine nos discussions. Bonne semaine à tous, encore une fois, vend ou ce qu'il prétend être. Voilà, donc c'était une digression par rapport à la ville de demain, et ben voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine, et on reprendra la semaine prochaine nos discussions. Bonne semaine à tous, encore une fois.